Et donc à la une en Israël, on va parler des négociations pour les otages qui sont au point mort. Alors va-t-on vers une reprise des combats ? Lise, vous en parlez avec notre invité. Il s'agit de Raphaël Jérusalemi, ancien officier du renseignement militaire de Tsahal.
Raphaël Jérusalemi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors hier, le nouveau chef d'état-major de Tsahal, Eyal Zamir, a convoqué les généraux pour une discussion spéciale dans le sud. Pensez-vous, Raphaël, qu'on va vers une reprise des combats cette semaine ?
Tout semble l'indiquer, mais pas cette semaine, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on préfère de voir le général Zamir en place officiellement pour diriger cette offensive. Or, il rentre en fonction officiellement que mercredi prochain. Il y a aussi la visite attendue de M. Witkoff de la Maison Blanche qui pourrait être retardée parce que Donald Trump, mardi, donne un discours important au Congrès. Donc cette semaine ne paraît pas encore le moment d'une reprise des combats, si elle a lieu. En attendant, on ne semble pas pouvoir envisager autre chose puisque tout est coincé. Il y avait normalement au 16e jour de la première phase un accord qui disait qu'il fallait commencer à négocier la seconde phase. Rien n'a été négocié, la seconde phase donc n'est pas prévue. Ce qu'on essaie d'obtenir, c'est un prolongement, une prolongation de la première phase et de libérer encore des otages, à quoi le Hamas ne semble pas disposer. Et le Hamas continue donc à vouloir cette seconde phase, et surtout, il faut bien le comprendre, le Hamas n'a aucun intérêt à libérer d'autres otages maintenant, s'il n'obtient pas ce qu'il veut principalement, c'est-à-dire l'arrêt total des combats. Pour l'instant, ça ne se retire pas de l'axe de Philadelphie, c'était la condition à la fin de la phase 1, donc ça reste sur ses positions. Je rappelle qu'à partir du 1er mars, donc à partir de samedi dernier, à la fin de la phase 1, s'il n'y a pas de phase 2, d'après l'accord, c'est reprise des combats. Il aura le droit de reprendre les combats. Évidemment, là où il y a un problème, c'est est-ce que c'est un bluff ou est-ce que véritablement Israël préfère reprendre les combats, auquel cas je pense que ça sera extrêmement néfaste pour les otages qui sont encore détenus à Gaza.
Alors donc, l'autre possibilité sur laquelle essaye de travailler l'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, c'est d'abandonner en fait le cadre de cette deuxième phase et d'avoir un nouveau plan qui prévoit de libérer les 59 otages restants en deux fois, au début et à la fin des fêtes, puisque le Ramadan et les fêtes juives de Pourim et de Pessah tombent en même temps. Un des responsables arabes trouvait que le plan de Steve Witkoff était plutôt un plan israélien. Est-ce que c'est vrai, Raphaël ?
On voit pas très bien l'intérêt du Hamas d'accepter ce plan. Il est un petit peu étonnant de voir ce changement en cours de route. Est-ce que dès le départ, les Israéliens n'avaient pas l'intention d'aller vers la phase 2 ? C'est possible. Au début, on pensait que c'était le Hamas qui n'irait pas vers la phase 2, qui mettrait des bâtons dans les roues. En fin de compte, ce sont les Israéliens, puisque depuis le 16e jour de la phase 1, ils n'ont pas véritablement, sérieusement entamé de pourparlers, d'autant plus qu'on a supprimé les négociateurs qui étaient les négociateurs qui pouvaient faire avancer les choses, c'est-à-dire le chef du Mossad, le chef du Shin Bet. On a mis à la place deux personnages incompétents. Le premier, c'est M. Ron Dermer, qui est en fait une marionnette du Premier ministre, Benjamin Netanyahu. Le second, c'est M. Gal Hirsch, qui est soi-disant responsable des otages, mais même les familles des otages ne peuvent pas le voir en peinture. C'est quelqu'un qui est vraiment incompétent. Et ces deux personnages, en plus de leur manque de compétences, n'ont pas reçu de mandat pour négocier en fait quoi que ce soit. Ils se rendent donc dans ce qu'ils s'y rendent au Qatar, en Égypte, pour ne rien dire. Et là, il y a un blocage certain du côté israélien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du côté du Hamas, mais on a abandonné en tous les cas. Et donc la proposition de M. Witkoff me paraît utopique.
En tout cas, vous disiez, Raphaël, que le Hamas n'avait aucun intérêt d'accepter. Il n'est pas content tout de même de la coupure de l'aide humanitaire qu'a décidé Israël hier.
Oui, ça je m'en doute. Il n'a qu'à pas la détourner non plus, car c'était humanitaire. N'oublions
pas.
Non,
bien sûr, mais je veux dire, ça pourrait pas être une motivation. Ça pouvait pas être une motivation pour signer l'accord, Raphaël.
Je ne pense pas. Ça peut faire une certaine pression, mais il faut bien comprendre que le Hamas n'a que faire des conditions de vie des Palestiniens de Gaza. Ce qui importe, c'est d'avoir lui de quoi manger et de quoi alimenter sa guerre avec des combustibles. Et ça, il va le faire de toute façon. Donc, tant qu'il y aura encore une miette de pain dans Gaza, c'est le Hamas qui la mangera. C'est pas les Gazaouis. Et donc, le Hamas se fiche bien de la population civile pour que cette menace donc d'affamer le Hamas prenne effet. Il va falloir des semaines. Car le Hamas, il y a des réserves. Surtout qu'aujourd'hui, à Gaza, de par cette aide humanitaire, il y a plein de nourriture, plein de combustibles.
Alors, justement, le deuxième dossier qu'on va surtout voir dès demain, c'est le sommet arabe qui est prévu pour le plan de reconstruction de Gaza. Et vous écriviez sur I24 News, Raphaël Jérusalemi, que ça ne devrait pas être la priorité par rapport au Liban et à la Syrie.
Absolument. La situation à Gaza n'est pas aussi catastrophique qu'on veut nous le faire croire. On en veut pour preuve la réouverture des marchés, des supermarchés, des centres commerciaux, des restaurants. Il y a à manger à Gaza. Je dis pas que c'est le paradis. C'est pas la Riviera de Trump encore, mais il y a des endroits au Proche-Orient où c'est beaucoup plus urgent de reconstruire. Il y a beaucoup plus de problèmes au sein de la population libanaise. Une grande partie des Libanais ne mangent pas à sa faim. Il y a une grande souffrance de la population syrienne. Il faut reconstruire la Syrie qui a été détruite à cause de la passivité de la communauté internationale. Maintenant qu'Assad a dégagé, c'est le moment de reprendre les rênes et de reconstruire la Syrie, Syrie-Liban. Et surtout, la grande priorité, parce qu'on oublie de le mentionner, c'est de reconstruire ce qui a été détruit en Israël. Tous les villages des kibboutzim du sud et du nord d'Israël ont été détruits. Des milliers d'hectares de nature et d'agriculture ont été brûlés par la guerre. C'est l'urgence. Je ne dis pas qu'il ne faut pas reconstruire Gaza, mais il faut reconstruire Gaza après. Et surtout pas tant que le Hamas est présent. Tant que le Hamas est présent à Gaza, il ne faut même pas faire rentrer un sac de ciment. Parce que ce sac de ciment, c'est pour faire des tunnels. Et comme on vient de le voir, la nourriture, elle est aussi détournée pour nourrir les terroristes, alors qu'ils affament les otages israéliens dans les tunnels.
Alors, ma dernière question là-dessus, Raphaël Jérusalemi, le ministre égyptien des Affaires étrangères compte non seulement sur les autres chefs des États arabes, mais aussi sur l'Europe et sur un certain nombre de pays donateurs pour ce plan de reconstruction de Gaza. Est-ce que c'est possible que l'Europe subventionne largement avec tous les problèmes qu'elle a déjà à gérer aujourd'hui?
C'est tout à fait possible. L'Europe a de l'argent, malgré tout, même s'ils sont tous déficitaires, comme tout le monde. Mais si on se rappelle ce qui s'est passé à bordure protectrice en 2014, les pays européens, l'Union européenne, ça a été engagé à hauteur de 5 milliards d'euros à aider la reconstruction de Gaza en 2014. On attend toujours de voir l'argent européen et la reconstruction promise par l'Union européenne. Je ne pense pas que l'Union européenne soit un partenaire fiable, pas seulement parce qu'ils n'ont pas l'argent nécessairement, à mon avis ils l'ont tout de même, mais parce qu'ils n'ont pas la véritable volonté politique, en dehors de l'esbrouf médiatique d'annoncer qu'ils vont aider, de faire quelque chose de concret. Je ferais beaucoup plus confiance dans l'Arabie Saoudite, les Émirats, qui pourraient s'investir beaucoup plus sur le plan financier. C'est facile pour eux, c'est sûr. C'est aucun problème. Avec l'argent qu'ils ont, chaque Gazaoui pourrait être millionnaire. Mais en plus, ils auront un intérêt peut-être plus politique de le faire et de faire faiblir, tant à Gaza qu'au Liban d'ailleurs ou en Syrie, l'influence néfaste iranienne ou même turque.
Merci beaucoup, Raphaël Jérusalemi, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes ancien officier des renseignements militaires de Tsahal. À très vite.
Merci.